Vous me demandez de lister ou de citer 10 sportives de haut niveau. J'en étais incapable, mais on se dit c'est pas normal. Et donc vraiment en actionnant les quatre institutions, on s'est dit bien, on va mettre en commun nos énergies pour faire avancer cette cause du sport féminin, mais qui est finalement la cause de la place de la femme dans la société, parce que la télévision est un formidable miroir et représentation de ce que peut être la société de tous les jours derrière un écran.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnelles, aficionados du stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Sport féminin toujours. Ça pourrait être notre dicton, ça l'est d'ailleurs un peu, mais c'est surtout une opération lancée en 2014 par le CSA et plus particulièrement par Nathalie Sonnac, notre invitée du jour. Il s'agit d'une opération de médiatisation qui met à l'honneur la pratique sportive des femmes et ancre le sport au féminin dans les usages. Et c'est toute cette semaine que ce programme est mis à l'honneur. Nous avons donc décidé de vous concocter un épisode spécial pour comprendre pourquoi et surtout comment le sport féminin est médiatisé ou ne l'est pas, et quelles sont les actions mises en place pour favoriser la visibilité du sport féminin à la télévision et plus globalement des femmes. Alors, on est d'accord que c'est tous les jours que les projecteurs devraient être braqués sur le sport féminin, mais c'est aussi avec des actions fortes de ce type, et surtout multiples, que les choses évoluent petit à petit. Vous comprendrez en écoutant cet épisode que la route est encore longue, mais chacun d'entre nous peut faire une petite différence en parlant, en se renseignant ou encore en regardant le sport féminin à la télévision. Une chose est sûre, engageons-nous pour la médiatisation du sport féminin. Bonne écoute. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien ?
Très bien, merci beaucoup.
Bienvenue dans Championne du Monde. On est ravis de vous accueillir pour cet épisode. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes Nathalie Sonnac, votre nom ne dit peut-être rien aux personnes qui nous écoutent. Donc pour remédier à ça dès le début, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et quel est votre rôle au sein du CSA ?
Alors, donc, je suis Nathalie Sonnac, je suis professeure des universités, j'enseignais les sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 2, à Panthéon-Assas, et depuis maintenant presque 6 ans, donc, je suis membre du conseil supérieur du CSA, donc du conseil supérieur de l'audiovisuel du CSA, et donc notre compétence est de garantir la liberté de communication et de nous occuper des chaînes de télévision et de radio. Et en l'occurrence, moi, mon groupe de travail s'occupe véritablement des chaînes de télévision à la fois publiques, commerciales, privées, à la fois nationales mais aussi locales, en vue de signer, par exemple, des conventions avec les chaînes de télévision, de nous occuper de la représentation des femmes dans les médias, mais j'imagine qu'on y reviendra, des opérations de fusion et d'acquisition, et encore toute une liste assez longue de dossiers sur les problématiques, en tout cas, qui touchent à la régulation de l'audiovisuel.
D'accord. Donc effectivement, si vous êtes là, si vous avez répondu à notre invitation, et d'ailleurs je vous en remercie, c'est que vous avez un engagement très fort en faveur du sport féminin. Vous avez d'ailleurs créé l'opération Les 4 saisons du sport féminin, qui sont devenues entre-temps en 2018, si je ne m'abuse, Sport féminin toujours.
Oui.
Pourquoi cet engagement pour le sport féminin et pourquoi avez-vous créé en fait ces différentes opérations ?
Le point de départ, c'est qu'une étude avait été réalisée, avant du reste que j'arrive au CSA, sur les retransmissions sportives féminines à la télévision. Et les chiffres étaient relativement alarmants, puisqu'on constatait que seuls 7% de retransmissions sportives étaient consacrées à du sport féminin.
Ça, c'était en quelle année ?
Et là, c'était en 2012-2013. Okay. Donc en 2014, une opération avait été montée pour tenter finalement d'aller chercher un peu les médias, de les alerter sur cette inéquité complètement de traitement. Et lorsque je suis arrivée en janvier 2015 au CSA, eh bien, on m'a demandé si cette opération sur le sport m'intéressait. Et puis, on était en train de réorganiser au sein du CSA les groupes de travail. Et en l'occurrence, moi, je pilotais le groupe économie de la concurrence au sein du CSA. Et les questions de droit, évidemment sportif, de brefs extraits, d'événements d'importance majeure, eh bien, tombaient dans mon escarcelle. Et j'étais très contente, évidemment, de m'occuper du sport en général, mais du sport au féminin. Donc, je me suis un petit peu plongée dans les chiffres, dans les études, avec les équipes du CSA. Et je me suis dit qu'effectivement, cette opération de sport féminin toujours, m'a alertée véritablement par l'inégalité que ça pouvait représenter. Ensuite, parce que le sport, déjà parce que moi-même j'en pratique, mais parce que c'est du vivre ensemble. Et puis parce que les programmes sportifs sont très présents à la télévision, qui rassemblent beaucoup de téléspectateurs. Mmh. Et j'ai toujours entendu parler des copines qui regardaient du sport, qu'il soit pratiqué par des garçons ou par des filles. Et puis effectivement, constatant aussi que finalement, il y avait très peu de retransmissions sportives féminines. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et que la position qu'on pouvait occuper au CSA eh bien, nous donnait en fait, suffisamment d'espace public pour pouvoir en discuter et surtout de jouer un rôle non négligeable auprès des chaînes de télévision. Donc, on a regardé ça avec les équipes. Moi, je suis économiste, donc je vous le disais, professeur en sciences de l'information et de la communication, mais je suis un doctorat en économie et j'ai beaucoup travaillé sur les écosystèmes et notamment l'écosystème de l'audiovisuel. Et on a regardé comment, économiquement parlant, finalement, le programme sportif, qu'est-ce que ça représentait pour les chaînes de télévision. Donc, on voyait le lien qu'il pouvait y avoir entre une audience, entre des annonceurs, c'est-à-dire des programmes qui étaient largement regardés par des téléspectateurs permettaient en fait aux chaînes de télévision d'acheter des droits parce que derrière, vous aviez suffisamment d'audience qui permettront ensuite aux annonceurs d'acheter des espaces publicitaires. Donc, c'est un modèle économique qu'on connaît assez bien dans les chaînes de télévision traditionnelles sur le programme sportif. Dans les études qu'on a pu mener, on s'est dit, et je me suis dit avec les équipes, il faut faire quelque chose qui va bien plus loin qu'une seule journée consacrée au sport féminin. Et donc, j'ai travaillé en synergie avec le ministère des Sports, avec le Centre National Olympique, qu'on appelle le CNOSF, et puis avec le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, pour monter une opération, tous ensemble, et pour pouvoir bénéficier finalement de la connaissance des uns et des autres, c'est toujours selon de là où on parle. Nous, CSA, on parle de la médiatisation. Les autres pouvaient parler côté égalité homme-femme, et évidemment de cette non-parité acquise dans tous les domaines, dont celui du sport. Et puis, avec évidemment le monde sportif, comme le ministère des Sports ou le CNOSF, qui avait une connaissance évidemment de ces questions-là. Donc, c'est ensemble qu'on a créé, en tout cas, moi, j'ai créé les 4 saisons du sport féminin, pour qu'on ait, comme ça, non pas une journée, mais plusieurs journées dans l'année, où on pouvait aborder la question du sport féminin. Et c'est finalement, moi, en découvrant cette thématique, en affinant ce qu'il pouvait en être, d'abord par l'entrée de l'inégalité en matière de retransmission sportive, eh bien, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que cette inégalité-là. C'est que le nombre d'expertes derrière leur micro était peu présente, que le nombre de sportifs de haut niveau était peu interviewé, dont finalement on avait peu idée, ou vous me demandez de lister ou de citer 10 sportives de haut niveau, j'en étais incapable, mais mon entourage en était incapable, dans les équipes on était incapable, on se dit c'est pas normal. Et donc vraiment en actionnant les 4 institutions, on s'est dit bien, on va mettre en commun nos connaissances, nos énergies, notre savoir pour faire avancer cette cause du sport féminin, mais qui est finalement la cause de la place de la femme dans la société, parce que la télévision est un formidable miroir et représentation de ce que peut être la société de tous les jours derrière un écran.
Absolument. Donc sport féminin toujours, parce que c'est son nom maintenant, ainsi que les médias à consacrer plus de retransmissions sportives, d'interviews, de portraits et de sujets d'émissions sur le sport féminin. Ça, c'est, je reprends les mots qui sont notés, hein, je n'invente rien. Quelles sont les actions concrètes qui sont menées par Sport Féminin Toujours pour justement améliorer la visibilité des femmes globalement, on va dire, dans le sport?
Alors, déjà, c'est d'avoir mis en évidence que véritablement la médiatisation était le levier d'action primordial, essentiel et indispensable pour qu'on puisse parler du sport féminin en France. Ensuite, c'est de mobiliser les chaînes de télévision, les grandes comme les petites. Ensuite, c'est de beaucoup plus actionner un maillage territorial. C'est-à-dire qu'au CSA, on a évidemment toutes les chaînes de télévision qui sont conventionnées par le régulateur, qui sont des chaînes nationales, mais aussi des chaînes locales. Comme je suis en charge des télévisions locales, j'ai pu beaucoup discuter avec les patrons de chaînes qui me disaient eux-mêmes que sur le terrain local, que ça soit Lyon, mais Marseille, et puis à Nantes, à Brest, à Strasbourg, il y a 44 télévisions locales en Hexagone, le programme sportif local fonctionne très très bien auprès des spectateurs. Donc ce qui veut dire qu'il y a une vraie appétence du public. Et finalement, il fallait aussi expliquer et démontrer aux chaînes de télévision nationales et locales que cette appétence du public existait et que tout le monde avait tout intérêt à gagner, à retransmettre des compétitions sportives. D'une part, parce que ça fait plaisir aux téléspectateurs, et d'autre part, parce que derrière, d'autres questions ont pu être levées, comme la question de gouvernance, par exemple, qui est une vraie question extrêmement intéressante. On se rend compte que les ligues de football ou les ligues sportives, que les fédérations, jamais une femme n'était aux commandes du navire. C'est une vraie question.
Absolument.
Que finalement, les questions des filles qui pouvaient regarder la télévision ou qui avaient envie d'avoir des modèles types, elles ne les voyaient pas, elles ne les connaissaient pas ou pas suffisamment. Parce que d'interpeller aussi les chaînes de télévision en leur disant, mais finalement, il y a les retransmissions sportives, mais il n'y a pas que ça. On peut faire des portraits, ce que vous listiez tout à l'heure très bien, ce qu'on essaye de dire. Et les chaînes de télévision, on a vu le résultat. C'est-à-dire que le résultat, il est concret. En 2013-2014, on avait 7% de retransmissions sportive. Aujourd'hui, en 2019-2020, on se retrouve entre 16 et 20%. Alors, c'est quand même un grand pas. C'était quand même une multiplication quasiment par 3 de ce pourcentage-là. Donc, c'est bien. Donc, on a vraiment fait un pas qui n'est pas simplement un petit pas. On a fait, je pense, un grand pas. Mais le vrai grand pas, me semble-t-il, c'est lorsqu'on aura passé aussi cette fameuse barre des 20%, qui est une sorte de plafond de verre que l'on retrouve dans nombreuses autres thématiques que celle du sport, qui est difficile à passer de façon générale. Et donc, il faut pousser et embarquer encore plus de chaînes de télévision, embarquer plus de médias. Donc, on a répondu pour partie à l'objectif que nous étions fixés, mais on ne l'a pas atteint.
Et
totalement.
Vous parlez de ces 20%, c'est assez intéressant. Vous parlez de plafond de verre. Pourquoi ça bloque à ce niveau-là? Quelles sont les réticences? Est-ce que les chaînes de télévision ont des réticences? D'ailleurs, de base, pourquoi initialement, historiquement, on va dire, les chaînes de télévision ne diffusent pas du sport féminin et uniquement du sport masculin?
Je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu observer, c'est que c'est multifactoriel. Vous pourriez vous poser la même question sur pourquoi les professeurs d'université, il n'y a que 20% de femmes, alors qu'au niveau des maîtres de conférences, vous êtes à parité. Pourquoi finalement au CAC 40, vous n'en êtes pas capable d'être à parité dans la gouvernance des entreprises? C'est à la fois culturel, c'est le fait qu'on n'a pas donné accès aux sportifs de haut niveau au même temps, c'est-à-dire, si j'ose dire, il y a aussi longtemps que pour les hommes. Donc, au niveau de la maturité et du niveau professionnel, on ne l'a pas atteint en tant que femme dans toutes les disciplines sportives, tout simplement parce qu'on ne les pratique pas. Mmh. Ensuite, je pense qu'il y a évidemment un facteur culturel, un facteur d'habitude. La femme au fourneau et l'homme au boulot, finalement, c'est un vieux schéma. Les enfants se retrouvent le mercredi après-midi dans la rue, ils ne sont pas à l'école et on dit que fait ta maman? Oui, mais enfin, ça fait quand même des années que la femme travaille. Mais c'est très très long, on s'aperçoit que les structures, les cultures sont extrêmement longues à bouger et que c'est étape par étape. En bon français, on dit bien step by step. Et je pense que le sport féminin toujours, donc notre nom, cette opération sport féminin toujours, commence à porter ses fruits. Parce qu'on embarque plus de monde, parce qu'il y a plus de sportives qui sont prêtes à parler, parce que les chaînes de télévision, et on leur doit aussi, alors les radios bien sûr, mais les chaînes de télévision, elles ont pris les risques, la preuve, vous prenez des W9, vous prenez enfin M6, le groupe M6, vous prenez le groupe TF1, le groupe Canal le fait depuis de longues années, beIN le fait, investissent maintenant dans des droits sportifs féminins, sont prêts à retransmettre, parce que les chaînes de TNT thématiques ne sont pas si anciennes que ça. Le dernier wagon, ça date de 2012, c'est pas si vieux que ça. On a la chaîne, donc l'équipe qui est arrivée sur la TNT, gratuite, qui offre une multiplicité de disciplines s'engagent sur le sport féminin. Canal s'est engagé sur le sport féminin. TF1 s'engage sur le sport féminin. M6 s'engage sur le sport féminin. Il y a des chaînes de télévision comme Chérie25 ou KNRJ disent, voilà, on va mettre en scène des expertes, on va les interviewer, on va leur poser des questions à plus de femmes. Et c'est ce cercle vertueux qu'on amorce et qui ne peut être amorcé que par les médias. Et on est dans ce moment-là où bah, ça commence à tourner. Et ça tourne et on embarque plus de monde avec nous.
D'ailleurs, ça me fait penser à des propos de Najat Vallaud-Belkacem, notre ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui avait déclaré dans une interview que le vrai problème, c'était la production des images. Elle disait que, elle disait pour résumer que même si les chaînes voulaient acheter des droits de diffusion, finalement, ils ne pouvaient pas les acheter en fait parce que les images n'étaient pas d'assez bonne qualité. Est-ce que vous savez s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens en fait ?
Un problème qui est central, qui rejoint finalement la question que vous posiez tout à l'heure sur ou le point que j'évoquais sur les vestiaires, où on dit que bah, les petites filles n'ont pas suffisamment de vestiaires. Là, de la même façon, finalement, pour pouvoir diffuser du sport de haut niveau, il faut que ça soit un très beau spectacle. Pour que ça soit un très beau spectacle, il y a le spectacle en soi et puis il y a le rendu possible de spectacle. Le spectacle en soi, c'est que les sportives soient de suffisamment haut niveau pour que lorsque ça soit retransmis, ça donne envie à voir. Et il est clair que les compétitions sportives féminines dans différentes disciplines ne sont pas au même niveau, tout simplement parce qu'elles ont commencé beaucoup plus tardivement que le sport féminin. Le sport masculin, pardon. Quel lapsus. Donc le sport... celui-là, il est balèze quand même. Le sport masculin. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, mais il rejoint et ça revient à notre boucle vertueuse, c'est que les stades ensuite, on a des très beaux stades en France, mais ils ne sont pas tous équipés de la même façon. Et c'est vrai que sur un stade qui est un peu pourri, eh bien finalement, vous ne pouvez pas en faire un beau spectacle parce qu'il faut armer, avec des réalisateurs, il faut avoir des bonnes caméras. Donc on voit bien qu'il faut faire un spectacle de qualité. Et d'ailleurs, les annonceurs vont acheter de l'espace publicitaire lorsque le spectacle est de bonne qualité, parce que vous donnez envie à voir un produit lorsque l'écran est joli. Si vous faites ça dans un écran pourri, ça le fait pas. Donc c'est bien aussi une nécessité de la part des régions, des collectivités, d'investir aussi dans des stades dans lesquels les filles vont pouvoir jouer et puis qu'on va pouvoir retransmettre à la télévision. Alors, depuis que Najat Vallaud-Belkacem avait effectivement évoqué ce point, je pense que les choses ont évolué. Mais ça fait déjà 5-6 ans. Et en 6 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Déjà parce que les filles essayent de se bouger pour être sur d'autres terrains que ceux qu'on leur donnait auparavant. Ensuite, parce qu'il y a un fonds, par exemple, le fonds, ça s'appelle CNDS, le fonds en fait, de soutien aujourd'hui est assez intéressant. Finalement, quand il y a des ayants droit qui ont des images, ben on leur demande, on donne la possibilité de mettre de l'argent pour un réalisateur, de produire, de racheter et de produire pour pouvoir en faire un film, pour pouvoir en faire une retransmission. Donc, il y a une économie qu'on a montée, qui s'est créée. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous pour le coup, mais il y a une économie qui s'est créée avec, grâce à ce fonds de soutien à des programmes sportifs auxquels les producteurs peuvent aller chercher pour pouvoir les aider à produire. Donc, il y a quand même de plus en plus d'éléments qui amènent à conduire qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision du sport féminin de haut niveau. Il y a aussi la chaîne Sport en France qui émane du CNOSF, dont on a signé la convention il y a un peu plus d'un an maintenant de mémoire, avec donc une convention signée avec le CSA, et là qui accepte en fait de donner gratuitement le signal à toutes les chaînes de télévision pour les droits que les ligues leur ont donnés. Donc, ce qui fait que, là encore, il y a de plus en plus de matière. Il faut de la matière pour produire. Et donc, cette matière-là, elle est mise à disposition de plus en plus par ce relais que constitue Sport en France. Ça n'existait pas auparavant. Il y a plus de chaînes de télévision. L'équipe s'est engagée auprès de nous et ont signé une convention pour une diversité de 36 disciplines sportives différentes. Parce que l'écueil dans lequel les chaînes de télévision commerciales gratuite risque de tomber avec les filles, c'est exactement le même que celui des garçons, à savoir 80% des droits ne sont que pour le foot. 10% ou 7% c'est pour le rugby, puis après alors le reste, c'est beaucoup quoi. Donc à part Roland-Garros et les Jeux Olympiques, finalement, on n'en voit pas suffisamment. Donc ça, nous, le CSA, on a beaucoup travaillé avec les chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, le président de la chaîne L'Équipe a un engagement. RMC, donc le groupe de Altice, de Next Radio Altice, a une obligation de mémoire, c'est dans RMC Story, a une obligation de retransmission, de 20% de retransmission de compétitions sportives féminines et ou de handisport. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont diffuser 100 heures de sport, il y en aura au moins 20 qui sera pour le sport féminin ou pour le handisport. Parce que la question du sport féminin est évidemment une grande question, c'est mon grand dada, mais on embarque aussi, ce que je n'ai peut-être pas dit, mais ça permet de le préciser, on a embarqué aussi le comité olympique, paralympique en fait, à côté du CNOSF et des deux autres ministres.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On a embarqué le comité paralympique pour nous aider, pour participer. Et c'est Marie-Amélie Le Fur qui en est la présidente et qui a été, en tout cas, qui participe toujours de nos opérations pour nous aider aussi à ce qu'il y ait une plus grande rediffusion de handisport à la télévision.
Je lisais du coup sur votre site internet des grandes données qui existaient sur le sport féminin et les avancées effectivement qu'il existait sur ces dernières années. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux. On a l'impression que le sport féminin, en tout cas les transmissions télévisuelles, sont quand même soumis aux grands événements. C'est vrai que sur le site internet, on parlait du mondial de foot en 2018 féminin, les finales mondiales Euro de hand en 2017, en 2018, qui ont fait des audiences considérables,
oui,
et qui sont données en exemple. Mais est-ce que il y a quand même toujours cette chose, ce point d'orgue, qui est que on diffuse du sport féminin uniquement quand on sait que les gens vont regarder parce que c'est des gros événements.
Alors oui et non. C'est-à-dire que lorsque W9, il y a 6-7 ans, mise sur les droits du sport féminin et du foot féminin, à l'époque, il n'y a pas une telle résonance. Et donc, ils ont pris un risque. Et c'est là que les médias sont importants. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent des risques. Et lorsque le pari est réussi, eh bien, vous avez embarqué des millions de téléspectateurs. Donc, si vous regardez la dernière Coupe du Monde de football féminin, il y avait 6, 7, 8 millions, 10 millions de téléspectateurs derrière leur écran. TF1 n'y croyait pas. Moi, j'étais avec eux dans les coulisses. Et lorsque on se disait, pourvu que ça a été bien suivi, parce que les Françaises ont super bien joué, parce qu'il y avait une émotion absolument extraordinaire dans le stade, c'était une ambiance de dingue, exactement comme pour les garçons. Donc, c'est comme ça qu'on aime quand on suit des compétitions sportives où tout le monde est derrière son équipe de France, et derrière son équipe, mais en l'occurrence, c'était l'équipe de France. Donc, c'était génial, c'était beaucoup de joie, c'est une grande fête. Le sport, c'est une grande fête. L'une des missions pour moi des 4 saisons du sport féminin, c'était 4 étapes. C'était je médiatise le sport, je réfléchis le sport, je pratique le sport et puis je fête le sport parce que le sport est une grande fête. TF1 était complètement par terre le lendemain parce qu'on avait des audiences de 8-9 millions de téléspectateurs. Donc ça a fonctionné. Donc ça serait sévère de dire qu'ils ne misent que parce que maintenant ils sont sûrs que ça marche, parce que ça reste exactement comme un film de cinéma ou qu'un film de fiction d'une certaine façon. C'est que la réussite n'est jamais là où vous attendez à ce qu'elle soit. Donc, ça reste une prise de risque pour les chaînes de télévision. C'est pour ça que, chaque année, on les embarque, on les remercie aussi, parce que même si les chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, pour autant, c'est grâce à leur investissement, c'est grâce à leur prise de risque qu'aujourd'hui, on est à presque 20% de retransmission sportive féminine.
Et ça, c'est quelque chose de nouveau, que les chaînes prennent ce risque.
Oui. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 15 ans, on était, comme je vous dis, quand on a commencé à calculer, on était à 7%. Donc oui, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, les usages ont changé. Aujourd'hui, ce sont les plateformes qui viennent titiller les droits sportifs. Aujourd'hui, les usages tournent beaucoup vers le numérique et on voit bien qu'on doit embarquer la société civile finalement avec nous pour que Et c'est là qu'on sort un petit peu de la question du sport féminin pour s'interroger sur la place de la femme dans la société, sur pourquoi elle ne gouverne pas, pourquoi elle ne dirige pas, quand elle peut le faire, évidemment. S'il n'y a pas encore de femmes qui sont dirigeantes, ou très très peu qui soient dirigeantes de ligues ou de fédérations, la question aussi de retransmission, c'est-à-dire des conditions de retransmission, des conditions de pratique, sont à interroger. Il y a beaucoup de filles ou de petites filles qui arrêtent le sport parce qu'il n'y a pas de vestiaire, par exemple, pour les filles, tout simplement. Ou parce que dans les stades, on dit le stade, il est réservé qu'aux garçons, et puis quand il pleut, et le dimanche matin, là où personne n'a envie d'y aller en plein hiver, on réserve le slot pour les filles. Donc on voit bien que culturellement, on revient de loin, mais ça ne doit pas être une raison pour laquelle on doit s'arrêter, mais au contraire, c'est maintenant qu'il faut activer, parce que je pense que la mayonnaise, si vous me permettez l'expression, a prise.
Et je vais un peu plus loin, parce que j'ai toujours dans les données que j'ai prises d'un rapport qui est très récent, qui date de septembre 2020, du CSA, qui est assez alarmant, hein, pour le coup, sur la prise de parole des femmes à la télévision.
Oui.
J'ai pris une donnée en particulier, moi, qui m'a fait tiquer, on va dire, sur le taux de le pourcentage de femmes prenant la parole dans les programmes de sport, qui avait vraiment progressé sur ces dernières années. On était à 17% en 2016, c'est passé à 24% en 2018. Et là, sur le dernier rapport, en 2019, on a une baisse énorme de 9 points pour redescendre à 15%, c'est-à-dire en dessous du pourcentage de 2016, donc d'il y a 4 ans. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que s'est-il passé alors que vous parlez justement d'une progression, une véritable amélioration, d'une prise de conscience ? Pourquoi on a d'un coup ce retour en arrière, si je puis dire ?
Ça montre bien qu'on n'est jamais arrivé déjà. Donc c'est tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'est pas arrivé. Donc on est toujours en train de courir. Donc vous venez de me démontrer que effectivement nous n'avons pas encore passé loin de la ligne d'arrivée. Ensuite, nous, dans la méthodologie qu'on applique pour la représentation et la retransmission du sport féminin, au début, on prenait toutes les compétitions, puis ensuite, on faisait un carottage sur simplement une quinzaine de jours. Aujourd'hui, on mesure les retransmissions sportives et donc les commentaires sur toute l'année pour toutes ces chaînes de télévision. Et on pige en fait à la fois le sport masculin, le sport féminin et ensuite les compétitions mixtes.
D'accord.
Et dans ce lot-là, lorsque vous avez des années à Jeux Olympiques ou des années à Ligue de Champions, on a une augmentation globale de retransmission sportive. Et c'est ces dernières années toujours dans le sens de plus de sport masculin. Donc finalement, en augmentant la jauge, sans augmenter la jauge de retransmission sportive féminine, vous faites tomber le pourcentage de global du sport féminin. Ça, c'est une première explication. Deuxième élément d'explication, c'est que malheureusement, là, on ne va pas simplement dans la retransmission sportive, on va au-delà, c'est-à-dire qui il y a autour des stades lorsqu'il y a retransmission sportive. Et là, effectivement, on a le baromètre de la diversité qui, chaque année, comptabilise, en tout cas, évalue, mesure, quantifie sur la base de 9 critères différents. La question de la diversité, donc la question de hommes-femmes, et puis on a ajouté des personnes perçues comme non-blanches, donc voilà, on a 9 critères différents. Et effectivement, dans le critère spécifique de experts, on a pointé du doigt que les chaînes de télévision avaient fait moins appel à des expertes. Vous regardez la période du Covid, mais par exemple, la période du Covid est une catastrophe. On n'a aucune experte ou très peu d'experts qui ont été interviewés sur les plateaux. Donc, ça veut dire que dans les événements spéciaux, dans des événements extraordinaires, dans des moments qu'on n'avait pas prévus, tac, le réflexe naturel, c'est de faire appel soit à son ancien réseau, soit à ceux dont on a l'habitude de faire appel, soit effectivement des gens dont on sait qu'ils vont répondre automatiquement présents. Et là, les femmes se volatilisent totalement.
C'est vrai que c'est assez préoccupant. On se demande pourquoi. Ça, je fais un lien avec une question que j'avais après, parce que du coup, ça s'enchaîne. Je cite Maître Thierry Grand-Turcot, qui est avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit du sport, qui a dit dans une interview récemment que la concentration des investissements privés va faire en sorte que les annonceurs, sponsors, etc., vont se serrer la ceinture et aller au plus efficace. Et aujourd'hui, le plus efficace, c'est le sport masculin. Les années à venir du sport féminin ne vont pas être sympathiques. Ouais. Voilà, ça c'est une phrase de cet avocat. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça rejoint justement les propos que vous êtes en train de dire?
Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est dans une crise majeure pour le monde du spectacle, le monde du sport, le monde de la culture de façon plus générale. Lorsqu'on a une crise majeure comme celle-ci, il est clair que les entreprises, par définition, tout de suite en période de crise, coupent leurs dépenses de communication. C'est-à-dire que le premier secteur pour lesquels les entreprises, que ça aille d'une entreprise de yaourt à l'automobile en passant par l'habillement ou par la téléphonie, va diminuer de façon drastique ses dépenses de communication par habitude en se disant « soyons efficaces ». Donc ce qui fait qu'en réduisant la voilure en dépenses de communication, lorsque les annonceurs achètent de l'espace publicitaire, eh bien, comme ils en achètent moins, ils essayent d'acheter encore plus efficace que dans les mois auparavant. Et donc, lorsque j'achète efficace, eh bien, c'est-à-dire que j'essaye de récupérer l'euro que je mets dans mon espace publicitaire, eh bien, que je le retrouve dans mon magasin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai vendu un espace publicitaire pour un produit, eh bien, j'essaye de maximiser ce moment-là pour que vous, téléspectateurs, lorsque vous regardez votre spot publicitaire et que vous rencontriez le produit, eh bien, que vous alliez directement dans le magasin pour l'acheter. En l'occurrence, en réduisant comme ça la voilure, eh bien, ils vont acheter des espaces publicitaires en tentant d'être efficaces. Et là, il y a eu moins de retransmissions sportives. Les peu de retransmissions sportives dites premium ou de haut niveau, c'est fait par des compétitions de garçons qui ont été jouées. Et dès lors, eh bien, on a vu moins de retransmissions sportives. Ce cercle vicieux, en fait. Autant lorsque je débutais cette interview, ce podcast avec vous, je vous démontrais l'importance et comment on peut être dans un cercle vertueux, comment on peut transformer le téléspectateur avec plus de retransmissions sportives, avec plus d'annonces, en un cercle vertueux pour le monde du sport et pour les retransmissions sportives féminines. Là, c'est exactement la démonstration inverse. Mais c'est le même circuit, c'est le même modèle. C'est-à-dire que la spirale est vicieuse dans ce cas-là. On n'arrive pas à embarquer tout le monde, et moins on embarque, moins vous embarquez, et moins vous embarquez, moins vous embarquez. Et effectivement, les propos que je n'avais pas lus de cet avocat résonnent tout à fait, en tout cas, corrèlent positivement à ce que je pense, d'où les difficultés du monde sportif, on voit bien, mais c'est vrai pour les garçons, mais là, évidemment, pour les filles, c'est le même combat, malheureusement.
Est-ce que vous êtes quand même optimiste sur les années à venir?
Alors, de nature, oui. Optimiste dans quel domaine? Est-ce que dans le domaine sportif, dans le domaine de représentation des femmes? Je pense que les femmes ont marqué des points ces dernières années. Alors, le phénomène MeToo, les points n'ont pas toujours été positifs. Ce qui est positif, c'est le message qui est envoyé. C'est-à-dire, il y a une inégalité dans ce pays. Il y en a aussi ailleurs, d'autres. Il ne faut pas se voiler la face. Pour autant, on a véritablement aujourd'hui en France une inégalité, c'est-à-dire que lorsque je suis une femme pour un même poste, je gagne moins. Quand je suis une femme pour le même poste, je n'arrive pas à accéder le poste auquel je devrais pouvoir accéder, c'est-à-dire celui de présidente ou de directrice. Que lorsque je suis une sportive de haut niveau, je n'arrive pas à lever les mêmes fonds, je n'arrive pas à aller chercher autant de sponsors, je n'arrive pas à attirer autant les médias. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on parvienne à changer. Et je pense que, et c'est là que je suis positive, c'est qu'une opération comme Sport Féminin Toujours, ça participe de cercle vertueux pour l'ensemble de la société et d'abord et en premier pour les petites filles. Alors pour les enfants en général, parce que je suis vraiment, mon combat est de la parité, celui de l'égalité, celui de la justice, c'est-à-dire celui qui est que lorsque je suis une petite fille et que j'ai envie de faire du sport, eh bien qu'il n'y ait pas de bâton qui me soit mis dans les roues pour la pratique de n'importe quel sport. Et ça doit être vrai pour le sport, comme ça doit être vrai pour n'importe quel champ pour lequel les filles ou les garçons ont envie de s'inscrire. Et c'est peut-être ça mon plus gros combat. Et c'est celui sur lequel je suis positive parce qu'il y a eu des avancées. Donc on parle de MeToo, il y a eu d'autres d'avancées qui ont été marquées. Ça, sport féminin y participe évidemment dans une très très grande moindre mesure, mais pour autant, ce sont une multiplicité d'actions de ce type-là qui peuvent embarquer tout le monde parce que ça parle. Et je pense que l'avenir est vraiment chez les plus jeunes et chez les petites filles hein, qui elles doivent se sentir libres. Et au-delà de se sentir libre, c'est être libre et avoir les mêmes armes que les garçons.
Absolument. C'est un discours qui nous parle beaucoup et qu'on essaye aussi de mettre en avant. Vous parliez de parité. C'est un mot que vous avez répété plusieurs fois. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on arrivera à une parité un jour, à court terme, à long terme, peu importe, que ce soit en termes de diffusion de sport à la télé masculin-féminin ou même ailleurs, sur de la prise de parole, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Oui, je pense que c'est possible. C'est possible à deux écueils. Le premier écueil, c'est lorsque vous avez une loi comme la loi de Najat Vallaud-Belkacem de 2014, met en évidence qu'effectivement, lorsqu'il y a une loi, et nous sommes les garants de l'application de cette loi en la matière de représentation d'une juste égalité entre les femmes et les hommes, on y arrive. Donc ça grimpe, pas suffisamment vite, mais par exemple, vous regardez le groupe France Télévisions, on est à 45%, TF1, M6 sont des sans ordre de même ordre de grandeur. Et le deuxième point, c'est que pour en tout cas la partie de la médiatisation, celle que je connais, c'est que les chaînes de télévision constatent qu'au moment où elles diffusent une Coupe de Monde de foot féminin, eh bien vous avez autant de téléspectateurs derrière leur écran que lorsque ce sont des garçons qui courent. Mmh. Et donc là, il y a bien une prise de conscience que finalement, elles ont risqué, elles ont misé, mais elles ont gagné. Et donc, qu'est-ce qu'elles veulent gagner? C'est une audience, c'est un beau spectacle, c'est du vivre ensemble. Donc, tout le monde a à gagner à ce qu'il y ait parité. Parce que le téléspectateur est demandeur. Et finalement, la première réponse et le premier client d'une chaîne de télévision, que ce soit pour le service public sous forme d'être d'un citoyen ou que ce soit pour une chaîne privée, que ce soit son client, le téléspectateur et aussi l'annonceur, eh bien, ils sont au rendez-vous, ils demandent, lorsque vous faites des interviews, des sondages de téléspectateurs pour un spectacle, est-ce que vous avez envie de voir plus de sport féminin à la télévision? La réponse est à plus de 70% positive. Donc pourquoi elle ne répondrait pas à la demande? Le principe de l'offre, c'est de répondre à la demande. Lorsque la demande est aussi claire que celle-ci, donc une chose à faire, c'est d'y répondre positivement. Donc c'est dans leur intérêt. C'est pour ça que je suis positive. Parce que d'une part, on a la loi qui est forte, qui est puissante et que cette application fait avancer les choses. D'autre part, parce qu'on constate que la société, elle est demandeuse. Les téléspectateurs sont demandeurs. Les petites filles, les filles, les garçons sont demandeurs d'une parité. Il n'y a pas que les filles qui demandent la parité. Les garçons, et notamment, je pense, les plus jeunes, et en tout cas, c'est eux vers qui il faut aller. Il faut vraiment marquer le coup auprès d'eux. Et ils sont demandeurs. Donc après, à la société de changer, aux gens à s'adapter et à la culture à aller plus vite.
Et quels sont vos prochains objectifs? Est-ce que vous avez envie de mettre en place de nouveaux leviers, peut-être, pour encore plus approfondir ce que vous avez déjà mis en place?
Oui, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a embarqué avec nous les chaînes de télévision. On a embarqué, je ne le dis pas suffisamment, pardon, parce que je m'occupe de la télévision, CSA et de la radio, mais les chaînes de radio participent aussi beaucoup aux retransmissions sportives et à cette envie et ce besoin de parité et en allant chercher des expertes. Là, on a notre prochaine opération qu'on va lancer de sport féminin toujours. On espère, on vous en reparlera un peu plus tard, mais on espère embarquer plus de monde. Et ce vers quoi il faut se tourner maintenant, finalement, c'est la presse écrite et c'est le numérique. C'est-à-dire, c'est les blogs, c'est les podcasts, le cinéma, par exemple. Hein, j'ai vu, il y a des films. Il y a le film sur les footballeuses dont la productrice Julie Gayet a produit. Et c'est un film formidable. Il y a récemment Madame Vasco Lopez, de mémoire Maria, de son prénom, qui a fait un documentaire film sur les sportifs de haut niveau, sur les combattantes. Mmh. Ça, c'est nouveau aussi. C'est nouveau. Donc, dès que tout le monde s'en empare, vous en emparez de cette façon. Et je vous en remercie beaucoup, sous forme de podcast. Donc, on va s'adresser autrement, aujourd'hui, aux nouveaux usages, qui ne sont plus tellement nouveaux, mais en tout cas aux usages d'aujourd'hui, à savoir les usages que forment les réseaux sociaux. Donc, on va tenter de mobiliser des nouveaux relais qu'on retrouve sur Internet. Je pense évidemment aux réseaux sociaux, je pense à plein de plateformes qui devraient être enclines à nous accompagner pour cette opération de sport féminin. Ça, c'est un objectif pour dans 2 mois.
Très bien, on suivra ça avec grand intérêt et on partagera nous aussi de notre côté avec grand intérêt. Pour finir un peu cette interview, si vous aviez juste un message à passer, vous, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être de personnel ou en tout cas sur le sport féminin, aux hommes, aux femmes qui écouteraient cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Quel est le message vraiment principal, le message majeur que vous avez envie de passer?
Je pense que le point qui, moi, me tient à cœur, c'est celui de la justice et de l'égalité. Et que ce n'est pas possible d'imaginer qu'en 2020, un être humain n'ait pas les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais surtout les mêmes droits aujourd'hui, qu'un autre être humain, en France, dans une démocratie comme la nôtre.
Très bien. Et notre dernière question, pour conclure, qui est la question qu'on pose à toutes nos invitées, qui est: si vous deviez donner une définition d'une championne, quelle serait-elle?
Ouh là là. Ouh là là. Une battante, une courageuse, une gagneuse, une gagnante.
Eh bien, merci beaucoup, Nathalie.
Merci à vous.
Pour ce moment, et c'était très instructif. J'espère que les gens qui écouteront ça apprendront des choses, et j'en suis persuadée. Et merci beaucoup, et en tout cas, j'espère à très bientôt. On suivra avec grand intérêt tout ce qui se passe, toutes les choses que vous mettez en place avec Sport Féminin Toujours, en espérant que le sport féminin a de beaux jours devant lui.
Très bien, merci beaucoup pour cette interview, et merci à vous de vous occuper, de vous intéresser à cette question du sport féminin.
Et bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.